France Inter, franceinter.com.
On n'apercevait dans les rues que des corps nus, percés de mille coups. Le fleuve en charriait tout autant. On n'avait égard ni au sexe, ni à l'âge, de sorte que c'était un vrai massacre. Filippo Cavriana, témoin de la Saint-Barthélemy. Mille ans d'histoire. Il était 3 heures du matin, le 24 août 1572, lorsque les cloches de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois se sont mises à sonner. Aussitôt, après avoir cousu une croix blanche sur leur chapeau pour se faire reconnaître, les hommes du duc de Guise, fanatisés par les sermons de leurs prêtres, se répandaient dans les rues de Paris, traquant, tuant ou mutilant des centaines de protestants. Certains furent précipités du haut de leur maison, raconte un témoin. Des femmes avec leurs enfants dont elles ne voulaient pas se séparer étaient traînées vers la Seine, percées de coups et jetées dans l'eau en si grand nombre que le fleuve se teignit de rouge. C'était le début d'un carnage qui allait faire 10 000 morts dans toute la France, un crime dont les causes sont encore mal connues, et dans lequel l'Église n'a reconnu sa part de responsabilité que plus de 400 ans après qu'il ait été commis. France Inter, Stanislas Vazak, le 24 août 1997.
France Inter. Le pape a accompli un geste œcuménique très important en direction des protestants. Jean-Paul II a reconnu la responsabilité de l'Église catholique dans le massacre de la Saint-Barthélemy, dont on commémore l'anniversaire aujourd'hui. On écoute le souverain pontife.
À la veille du 24 août, on ne peut pas oublier le douloureux massacre de la Sainte-Barthélemy aux motivations bien obscures dans l'histoire politique et religieuse de la France. Les chrétiens ont accompli des actes que l'Évangile réprouve, l'appartenance à différentes traditions religieuses ne doit pas constituer aujourd'hui une source d'opposition ou de tension.
Arlette Joanna, bonjour.
Bonjour.
C'était Jean-Paul II, aux Journées mondiales de la jeunesse, le 24 août 1997, 425 ans après un massacre auquel vous venez de consacrer un livre passionnant publié chez Gallimard, La Saint-Barthélemy, avec en sous-titre Les mystères d'un crime d'État, parce que vous rappelez que c'est un crime d'État dans lequel, finalement, le Vatican n'y est pas pour grand-chose. Et vous dites que c'est un mystère qui a intrigué et qui intrigue encore les historiens. Pourquoi ? Parce que cette Saint-Barthélemy, sanglante, épouvantable, eh bien, elle se produit à un moment où, au contraire, les protestants et les catholiques avaient fait la paix.
Bien sûr, oui. La Saint-Barthélemy se produit 2 ans après la conclusion de la paix en 1570 par le traité de Saint-Germain qui mettait fin à la troisième des guerres de religion. Et paix qui a été concrétisée, qui venait d'être concrétisée d'une façon très magnifique avec le mariage le 18 août 1572, le mariage entre le chef des protestants, le jeune roi Henri de Navarre, et la
sœur, Henri IV.
Le futur Henri IV, et la sœur du roi, Marguerite de Valois, la reine Margot, mariage qui a été célébré avec un faste extraordinaire et qui devait mettre fin à toute guerre et sceller la réconciliation entre catholiques et protestants.
Les soldats, mes catholiques, mes protestants, réunis tous ensemble dans la maison de Dieu. C'est un symbole, ce mariage. Ça va tout arranger.
Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois ?
J'accepte.
Marguerite de Valois. Acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre ? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, Je vous déclare mari et femme.
Et c'était le 18 août 1572 à Paris, à en croire cet extrait de film, mais c'était vrai, vous le dites, Arlette Joanna, ce n'était pas un mariage d'amour, hein, c'était un mariage de raison pour réconcilier. C'est ce qu'espérait Catherine de Médicis, la mère du roi de France Charles IX, réconcilier les catholiques et les protestants.
C'était un mariage de réconciliation. Qui n'a pas été conclu sans difficulté, puisque le pape avait refusé d'envoyer la dispense qui était pourtant nécessaire, dispense pour la parenté entre les deux jeunes époux. Oui. Et dispense pour la religion, pour la différence de religion. Et mariage très curieux, puisque l'époux, le mariage a été célébré sur le parvis de Notre-Dame, et l'époux n'est pas rentré dans la cathédrale, mais a attendu le temps du mariage dans l'évêché voisin. Mariage qui s'est déroulé aussi dans une atmosphère hostile. Paris, à ce moment-là, était une ville très peuplée, 300 000 habitants, une ville intensément catholique, une ville travaillée aussi par la peur de la disette, la jonction entre les deux récoltes, enfin, ça fait mal, le prix du blé monte, il fait chaud, il y a une sorte de nervosité qui est attisée en plus par les serments exaltés des prédicateurs tels que Simon Vigor. Donc il y a des...
Simon Vigor qui en chair parlait des protestants en les appelant les lépreux spirituels et qui vraiment incite, il y a une atmosphère de violence contenue qui est absolument incroyable à ce moment-là dans Paris.
Une violence contenue d'autant plus que les protestants font peur. Les protestants font peur.
Qui sont venus de très loin. Parce que justement, Arlette Joanna, on a beaucoup dit que au lieu de vouloir réconcilier les protestants et les catholiques, eh bien, en organisant ce mariage, Catherine de Médicis, la mère de la reine Margot, devenue la belle-mère de Henri de Navarre, la mère du roi de France Charles IX, que Catherine de Médicis, au fond, leur avait presque tendu un piège, une espèce de guet-apens pour faire venir à Paris toutes les personnalités importantes du parti protestant.
Oui, c'est effectivement l'interprétation qui s'est tout de suite imposée aux protestants, aux survivants et à tous leurs coreligionnaires. Pourquoi ? Mais parce que la chose était tellement impensable, tellement extraordinaire, ce massacre survenant seulement 6 jours après le mariage, qu'il y a une espèce de sidération des protestants et que finalement, pour essayer de comprendre, cette explication du guet-apens s'est imposée à eux comme étant la plus logique. Ça a été une sorte d'hypothèse explicative qui leur a permis de penser ce qui venait d'arriver et ceci s'est greffé sur cette vieille hantise qui remonte au moins à l'entrevue de Bayonne de 1564, cette vieille hantise selon laquelle le roi ferait la paix pour mieux pouvoir les exterminer.
Alors il faut rappeler que ces protestants sont donc là, ils sont venus accompagner Henri de Navarre. Parmi eux, il y a un personnage qui est très important, considéré comme le chef du parti protestant, qui est l'amiral de Coligny, qui est proche d'ailleurs de la famille royale, puisqu'il est vraiment, il est très proche notamment du roi, du jeune roi qui a 22 ans et qui est Charles IX.
Oui, alors Coligny, c'est un personnage extrêmement complexe. Extrêmement complexe, il est le chef militaire des protestants. C'est aussi un grand seigneur. C'est un grand seigneur qui parle haut au roi, qui ne ménage pas véritablement sa susceptibilité. Il faut rappeler qu'il est prêt à s'engager pour aller aider ses coreligionnaires aux Pays-Bas, ses coreligionnaires protestants révoltés contre le très catholique roi d'Espagne, Philippe II, et qu'il est prêt à le faire sans l'aval du roi. Qu'il est prêt à le faire alors que le Conseil royal a dit expressément que la France ne s'engagerait pas dans une guerre contre l'Espagne, donc que la France ne soutiendrait pas l'entreprise de Coligny. Et Coligny pourtant s'apprête à le faire et dit au roi en plein conseil qu'il va le faire, qu'il va partir avec ses amis, ses obligés, ses parents, donc avec des troupes qui sont des troupes privées et d'une confession différente de celle du roi.
Alors c'est la raison peut-être pour laquelle Arlette Jouanda, 4 jours après ce mariage auquel assistait Coligny, eh bien le 22 août 1572, 2 jours avant la Saint-Barthélemy, eh bien Coligny est victime d'une tentative d'assassinat.
Un vendredi, à l'imitation de notre Seigneur.
Attention !
C'est lui ? C'est l'amiral ? Qu'est-ce qui s'est passé?
Un miracle! La balle lui a seulement déchiré le bras.
C'est passé!
Attention! Vous n'êtes que des
gens!
Vous voulez tous nous tuer?
Alors c'est ça la réconciliation que tu nous as promise?
Dieu vous fera payer!
Et on périra
dans les flammes!
Laissez passer le roi!
Comme Sodome et Gomorrhe!
Je vous promets justice!
De la religion! Arrêtons de tous les coins du royaume! Pour nous venger de ta cour criminelle!
Dites quelque chose, parlez-leur vous aussi!
Au lieu de crier vengeance! Qui vous protège et vous l'éprouve. Votre chef est sauvé. La blessure est légère.
Et c'était l'attentat contre Coligny, donc le 22 août 1572. On est à 48 heures du massacre de la Saint-Barthélemy. Un attentat dont on n'a jamais très bien su qui en était à l'origine, Arlette Jouanda.
Mais là, c'est un des nombreux mystères de la Saint-Barthélemy.
Parce qu'il est grave, hein, il va brusquement retendre la tension entre protestants et catholiques.
Coligny n'est que blessé. Alors, qui a fait le coup? Les contemporains ont immédiatement émis quantité de suppositions. Le roi, son frère Henri d'Anjou, le duc de Guise, bien sûr.
Car alors, le duc de Guise, oui.
Le duc de Guise.
C'est le chef du Parti catholique.
Le duc de Guise a un grief contre Coligny, puisqu'il est persuadé, et c'est vrai, n'est-ce pas vrai, c'est difficile de le savoir, mais le duc de Guise, le duc Henri de Guise, est persuadé que son père, François, qui a été assassiné devant Orléans en 1563, a été assassiné à l'instigation de Coligny. Donc il y a une sorte de vendetta que la famille de Guise nourrit à l'égard de Coligny. Alors évidemment, on a pensé au duc de Guise, on a pensé au roi d'Espagne, qui aurait voulu, en faisant exécuter Coligny, interrompre l'expédition qu'il se préparait à mener aux Pays-Bas.
Les Pays-Bas qui étaient espagnols à l'époque.
Les Pays-Bas étaient espagnols. Alors, on a parlé du duc de Savoie, on a parlé de la mère du duc de Guise, quantité de suppositions qui finalement toutes se révèlent extrêmement fragiles et en tout cas difficiles à étayer. Mmh. Alors, je pense que cet attentat est certainement, plutôt que d'aller chercher un grand qui serait l'instigateur secret de cet événement, je pense tout simplement, on en a des exemples dans l'histoire contemporaine, ceux qui ont fait le coup, ce sont des activistes catholiques liés très certainement au réseau Guisard, mais qui
parce
ont
que
vigé...
C'est un coup d'arquebuse qui venait de la maison du précepteur du duc de Guise.
On a des noms. On a Maurevers, on a le chanoine Villemure, on a le sieur de Chailly. On les a retrouvés. Ils ont organisé l'attentat. Ce sont des gens qui appartiennent au réseau Guisard. Mais à mon avis, ce qu'ils ont voulu atteindre à travers Coligny, c'est la paix. Parce que la paix était une trahison. La paix était un scandale. Il leur fallait la guerre parce que seule la guerre parviendrait à éradiquer l'hérésie. Et je pense qu'ils ont agi, je crois qu'ils ont dû agir sans l'aval du duc de Guise, peut-être même pour le mouiller, pour le forcer à s'impliquer dans cette guerre dont il rêvait.
Alors évidemment, cet attentat est gravissime. Coligny, c'est le chef du parti protestant, pardon, et aussitôt, on craint que les protestants veuillent se venger. À l'époque, il faut le rappeler aussi, du côté catholique, on craint une espèce de coup de force protestant. En tout cas, c'est le prétexte que va saisir Catherine de Médicis, qui brusquement se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont dangereux, ou se serait dit cela, n'est-ce pas? Et qui va réunir donc un conseil, quelques heures ou un jour et demi après la tentative d'attentat contre Coligny. Et là, on va retrouver dans ce conseil, c'est là que va se prendre la décision de la Saint-Barthélemy. Alors, il faut quand même aussi qu'on comprenne un peu les rapports entre Catherine de Médicis et son fils qui est roi. Il est roi, il a 22 ans, il pourrait très bien gouverner, mais en fait, il est vraiment sous la coupe de sa mère, Arlette Jouanda.
Alors, il est sous la coupe de sa mère Je me le demande. Je me le demande. Il y a une sorte de légende noire autour de Catherine Médicis, qui serait cette mère possessive, cette mère perverse, cette mère ambitieuse, et qui, par ses origines italiennes, serait pénétrée par les idées, serait pénétrée des idées de Machiavel, cette reine qui manipulerait les poisons. Je crois qu'il faut réévaluer ces rapports entre la mère et le fils. Charles IX est quelqu'un qui est très soucieux de son autorité, qui l'a montré, qui sait tenir un langage extrêmement énergique, notamment lorsqu'il s'adresse aux parlementaires. C'est un homme soucieux de son autorité. Or, et c'est ce qui s'est passé certainement ce soir du 23 août. Alors, y a-t-il eu un conseil ou une succession de réunions informelles ? Ça, vraiment, on ne le sait pas. On ne peut pas le savoir avec certitude. Mais en tout cas, Charles IX n'a pu qu'être heurté par les propos qu'ont tenus les protestants au lendemain de l'attentat contre Coligny, propos qui étaient extrêmement graves. Les protestants ont dit et répandu partout qu'ils allaient se faire justice eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils allaient tuer les Guises, eux pensaient que c'était les Guises, et qu'ils allaient tuer les Guises jusqu'aux pieds du roi et, selon même un autre témoignage, jusque dans les bras du roi. Or, c'était un attentat à la souveraineté royale, c'était un déni du monopole de la justice royale. Il y avait là véritablement de quoi réveiller dans l'esprit du roi le souvenir des avanies passées, et en particulier au moment de la surprise de Meaux, lorsqu'il avait vraiment cru que les protestants attentaient à son état.
Donc il a peur, il aurait peur effectivement d'une vengeance des protestants, c'est ce qui aurait expliqué cette fameuse décision qui se prend dans la nuit du 23 au 24 août 1572, lorsque, selon la légende, poussé par sa mère, eh bien Charles IX aurait décidé de faire exécuter quelques protestants, ou peut-être même plus.
Ton père savait qu'on reconnaît un roi au bien et au mal qu'il sait faire.
Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Il faut supprimer les chefs. C'est une question d'heure, ce soir, cette nuit.
Pas un seul ne doit rester. Pas un seul qui puisse venir m'en faire le reproche.
Combien faut-il en tuer ?
11.
14.
12 ! Tu es protestant ?
Mais qu'est-ce qu'on veut dire ?
Tu l'as entendu ? Récite le credo ! Récite !
Non !
Regarde, ici ce sont les femmes de tous les chefs protestants que l'on jette à l'eau. Cette fumée qui monte au ciel, c'est l'hôtel de Coligny qui brûle.
Ce qui est effrayant quand on vous lit Arlette Joanna, c'est la violence avec laquelle, il y a non seulement un nombre considérable de morts, mais la violence avec laquelle les choses se sont produites, une violence incroyable. Vous citez par exemple la façon dont Coligny, qui a échappé deux jours plus tôt à un attentat, a été tué par les hommes du duc de Guise dans sa maison, et puis on le jette par la fenêtre, il tombe dans la foule le dépèce littéralement, et puis ce qui reste de son corps est pendu au gibet de Montfaucon, au-dessus d'un bûcher. Comment expliquer cette espèce de déchaînement de violence qui nous paraîtrait incompréhensible aujourd'hui, en tout cas en France ?
Je crois qu'il faut revenir un tout petit peu en arrière, et en particulier à propos de cette première décision prise au sein du Conseil ou des conciliabules du 23 août. Alors l'image évidemment qu'en donnent Patrice Chéreau et Alexandre Dumas est très pénétrée de ce que j'ai appelé la légende noire des rapports entre Catherine de Médicis et Charles IX. Je crois qu'il faut véritablement distinguer ce que j'appelle la première Saint-Barthélemy, qui est la décision prise en Conseil collectivement d'exécuter le terme peut être employé parce que le roi l'a dit à plusieurs reprises ensuite. Il dit qu'il a fait, il a utilisé et il s'est servi de sa justice extraordinaire, c'est-à-dire de son pouvoir de punir sans procès préalable lorsque les son état était en danger. Et alors, je crois qu'il faut bien distinguer cette étape, première étape, ce que j'appelle la première Saint-Barthélemy, qui est un acte, j'allais dire, que l'on peut qualifier de politique, et puis le déclenchement...
Mais quand vous dites d'exécuter un petit nombre, les chefs protestants...
Alors, exécuter Coligny et les chefs protestants qui étaient avec lui à Paris. Et puis ensuite, ce déclenchement de la fureur catholique, déclenchement de fureur catholique qui est d'abord parti sur un malentendu, car le roi ne l'a nullement commandé.
Il essaye d'arrêter les massacres et tout personne ne lui obéit, il est dépassé par la situation en fait.
Tout de suite, Charles IX a essayé d'arrêter les massacres, il a été dépassé par les événements. Et au départ, ça a été le massacre parisien parti sur un malentendu, car le duc de Guise, mandaté par Charles IX pour aller exécuter Coligny, a dit, en allant s'acquitter de sa mission, il a dit « le roi le permet ». Des catholiques l'ont entendu et ont cru que le roi autorisait, que le roi, enfin illuminé, pensait-il, par la grâce divine, avait enfin compris qu'en faisant la paix avec les protestants, il faisait fausse route, et qu'il se décidait enfin à donner l'ordre d'exécution de tous les protestants.
D'où cette violence d'autant plus effrayante, vous me l'avez dit avant que l'émission commence, parce qu'on se tue, il y a beaucoup de protestants à Paris, et pas seulement ceux qui sont venus pour le mariage de province, mais entre voisins, enfin c'était d'une violence insensée. Toutes les descriptions que vous donnez, Arlette Johanna, c'est vraiment, ça fait peur, ça fait frémir.
Alors, le grand mystère, un autre des mystères, c'est que finalement, ces protestants que l'on assassine, c'était des voisins, c'était des gens qu'on connaissait. C'était des gens avec qui on avait noué des liens de familiarité. Mais en même temps, c'était des gens qui suscitaient la peur. Qui suscitaient la peur. Il y a une sorte de fantasme dans l'esprit des catholiques. Les protestants, ce ne sont pas seulement des hérétiques, mais ce sont des gens qui se sont mis en dehors de la communauté. Ce sont
des
traîtres. Ouais. Ce sont des gens qui sont nécessairement animés de mauvaises intentions. Ce sont des gens qui ne rêvent que d'exterminer les catholiques. Et la paix va leur permettre de mener à bien ce projet maléfique.
Alors à quel prix, hein? Parce que non seulement il y a eu 3000 morts, dites-vous, à Paris, mais au total, dans l'ensemble de la France, où le mouvement s'est répandu, 10 000 morts, et ça a continué jusqu'au mois de septembre 1572, date à laquelle d'ailleurs Henri de Navarre, le futur Henri IV, qui a échappé à la Saint-Barthélemy, qui a été littéralement pris en otage par la famille royale, est obligé de se convertir, c'est-à-dire de renier le protestantisme pour adopter le catholicisme le 26 septembre 1572.
J'ai désiré retourner au troupeau de la vraie bergerie et l'église catholique, apostolique et romaine. J'abjure toute erreur et hérésie luthérienne et calviniste. Et vous suppliez au nom de Dieu,
de son Fils Jésus-Christ et de la glorieuse Vierge Marie, sa mère,
de m'accorder l'absolution des fautes que j'ai commises, de le recevoir au sein de la communauté qui vit sous l'obédience du pape. Je t'ai cru mort, t'as permis de me rejoindre.
Je me suis converti, moi aussi.
Bon, n'aie pas honte, l'important c'est qu'on soit vivant.
Pourquoi sonnent-t-on les cloches? Il n'y a plus personne à tuer.
Celebrate Vocantes, c'est un chant composé exactement à l'époque de la Saint-Barthélemy. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été composé par Claude Lejeune et Jean-Antoine Baïf. Il y avait un réformé et un catholique. Hein, alors que cette Saint-Barthélemy a relancé une guerre de religion. Il y a eu des trêves, mais ça a duré quand même encore pendant pendant un quart de siècle, ces guerres de religion, jusqu'à ce que l'édit de Nantes de Henri IV y mette un terme. Henri de Navarre, devenu Henri IV, y mette un terme. Alors, on se dispute encore sur les causes, sur les responsabilités. Au fond, à vous lire, eh bien, c'est un peu Arlette Johanna, c'est un peu tout, c'est un peu Catherine de Médicis, Charles IX, l'Église, l'Espagne qui est derrière tout ça, peut-être aussi un peu le pape qui s'est réjoui, je crois, du massacre de la Saint-Barthélemy, tout simplement la haine. Alors votre livre a été écrit chez Gallimard dans la collection Les Journées qui ont fait la France. Alors il y a déjà publié le 2 décembre 1804, le Sacre de Napoléon, le 11 novembre 1918, l'armistice, le 13 mai 58, la fin de la 4e République. En quoi est-ce que le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, est une journée qui a fait la France, Arlette Joanna?
Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est peut-être par la gravité de la question qui a été posée à tous les contemporains. La gravité de cette question, le roi peut-il, a-t-il le droit, comme il l'a dit, comme il l'a revendiqué, le roi a-t-il le droit dans une monarchie de disposer de la vie de ses sujets lorsqu'il pense que son état est en péril? Autrement dit, est-ce que pour en cas de danger imminent de l'état, le roi peut se dispenser des règles ordinaires de la justice, des règles éthiques ordinaires?
Parce que vous dites justement que ça a préparé l'évolution vers la monarchie absolue.
Exactement. Alors, cet acte du roi est apparu à beaucoup de ses sujets, pas seulement les protestants, mais aussi les catholiques. Il y a une chose que l'on oublie, c'est que, paradoxalement, la Saint-Barthélemy a provoqué un rapprochement entre catholiques et protestants. Tous ceux que l'énormité du fait a scandalisé, tous ceux qui ont attribué à ce scandale, à cet événement inouï, qui ont vu dans cet événement inouï un excès de la puissance absolue.
Mais ça a ruiné aussi, dites-vous, l'espoir qu'avaient réellement, puisque ça s'était produit dans d'autres pays d'Europe, qu'avaient les protestants de convertir au fond la France entière. D'ailleurs, Henri de Navarre, devenu Henri IV, roi de France, on a entendu, il a abjuré sa religion, puis il y est revenu, puis à nouveau, il s'est reconverti au catholicisme. Au fond, c'est fini cet espoir qu'avaient réellement authentiquement les protestants de se dire, après tout, on va faire ce qui s'est passé, notamment en Allemagne.
Oui, les protestants nourrissaient encore à la veille de la Saint-Barthélemy, nourrissaient encore, bien que déjà à trois guerres de religion et sapé cette espérance d'une certaine façon, mais ils nourrissaient encore le rêve que la France pourrait basculer dans le camp de la réforme.
De ce point de vue-là, hélas, la Saint-Barthélemy, la terreur a eu les effets qu'espéraient peut-être les catholiques.
Cet espoir la Saint-Barthélemy a montré la vanité, oui, de cette espérance des protestants et tous se sont rendus compte que la France resterait catholique.
Cette violence aussi a eu une conséquence, vous le dites, c'est que au fond, la blessure, notamment bien sûr pour les protestants français, la blessure ne s'est jamais refermée.
Elle ne s'est jamais refermée. Elle est encore extrêmement vive, surtout évidemment dans les régions où la communauté protestante reste nombreuse et active. Mais cette blessure est restée très, très, très présente. Mmh. Et chez les catholiques, c'est resté aussi, je pense, comme parce que on simplifie, la mémoire collective a enregistré, se souvient de la Saint-Barthélemy comme d'un exemple de fanatisme, c'est le mot que l'on emploie. Et il y a sans doute chez les catholiques le sermon, l'homélie de Jean-Paul II qui a été rappelé en début de cette émission, le monte une sorte de remords.
Même si le Vatican n'y était pour rien, et encore moins si Jean-Paul II, on est 425 ans après quand même.
Même si l'Église, ouais, n'y était pas pour grand-chose. Mais ouais, la Saint-Barthélemy fait maintenant partie de notre mémoire collective.
Et une belle leçon de tolérance religieuse, parce qu'elle nous apprend au fond ce que peut provoquer le fanatisme religieux. Merci à Arlette Joanna de nous avoir rappelé cette histoire terrible que l'on retrouve aussi dans votre livre, La Saint-Barthélemy, les mystères Mystère d'un crime d'État, un livre publié chez Gallimard dans la collection Les Journées qui ont fait la France. À lire aussi, mais c'est un bref résumé d'une liste des rois de France, mais dans lesquels on trouve Catherine de Médicis, les rois et reines de France, de Catherine de Médicis et également Charles IX, de Bernard Fan, rois et reines de France, publié au Seuil. Vous avez pu entendre des extraits du film La Reine Margot de Patrice Chéreau, disponible en DVD chez Pathé. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pierrick Monsigny et Loïc Frapsos, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, et à notre réalisatrice Anne Kobilac.